Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour encore. Grande est ma joie ce matin de me retrouver dans la maison, comme l'a dit le pasteur Roger. J'étais venu pour un séminaire biblique dans notre église des Paroles de Vie Plaza. Et par cette occasion, on m'a ramené pour que ce matin, je sois celui qui va apporter la parole. Et nous disons merci à notre pasteur, le pasteur Bondo, pour la confiance qu'il a encore placée à notre modeste personne, pour que nous soyons jetés dans ces eaux profondes de la prédication ce matin. Nous disons merci à tous ses collaborateurs, pasteurs, et vous tous qui êtes là ce matin, parce que ma seule raison d'être là, c'est parce que vous êtes là. Et je suis très reconnaissant de votre présence. Je profite aussi de l'occasion pour vous passer les salutations de ma petite famille, mon épouse et mes enfants, mais aussi de toute la grande communauté de la Borne Kampala. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous ne sommes pas que à Kampala, nous avons une autre extension qui fonctionne déjà il y a plus d'une année dans la ville de Arua. Arua, c'est à 500 km de Kampala, mais qui est à la frontière avec la ville de Arua. L'église est là aussi, marche bien par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu d'Israël, nous te dédions ces instants. Merci de nous conduire et de manifester ta présence en ce lieu. Que ce message, Seigneur, nous porte vie, nous transforme nous-mêmes, mais aussi ceux qui l'écoutent. Bénis, Seigneur, ceux qui sont en cours de route en train de nous rejoindre, que la grâce de Dieu soit avec eux. Dans le puissant nom de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons lire une portion des Écritures. Je suis dans la lettre de Paul à Philémon, du premier verset jusqu'au 21e verset. C'est une petite longue lecture. Je vous promets de ne pas lire régulièrement les autres. Mais nous pouvons les lire dans Philémon, n'a qu'un seul chapitre. Donc Philémon, chapitre 1, du premier au 21e verset. Paul, prisonnier de Jésus-Christ et frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître à nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, et c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant que je suis Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans le chêne Onésime, qui autrefois a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi, je te les renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'ils me servent à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être qu'il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Mais maintenant, utile ». En fait, pour ceux qui font les études bibliques, ils savent que la lettre de Paul à Philémon, la lettre de Paul aux Éphésiens, aux Colossiens, ce sont des lettres dites des lettres de captivité ou des lettres de Paul en prison. Parce que ce sont des lettres que Paul a écrites pendant qu'il était prisonnier à Rome. Il est prisonnier à Rome et il écrit ces lettres pour édifier le peuple de Dieu. Malgré son état dans les chaînes, Paul ne cessa d'écrire des lettres riches en ce qui concerne les communautés, en ce qui concerne les frères et sœurs. Et lorsque nous lisons ces lettres, nous voyons qu'elles sont riches sur le plan spirituel, parce que Paul ici est en train de transmettre une expérience spirituelle, mais aussi avec une vie pratique qu'il est en train de vivre en prison. Paul s'adresse à son fils Philémon pendant qu'il est en prison. Et de quoi il est question dans ces passages? Philémon, Tite, Philémon, Archip, Avia et Onésime vivaient tous dans la ville de Colosse. Et Onésime était esclave dans la maison de Philémon. Philémon, c'était un frère assez riche, nanti, qui avait logé la maison, l'église, dans sa maison. L'église dans sa maison avec pasteur Archip, son fils, et lui, Philémon, il était là comme ancien de l'église. Et l'apôtre Paul parla de Philémon, il rend de lui un témoignage merveilleux. Je suis content de ce que tu es en train de faire grandir la foi des saints. Je suis content de ta foi et de ton épanouissement dans le Seigneur. Je suis content des nouvelles que j'apprends de l'organisation que vous faites dans la ville de Colosse et dans cette église. Mais alors, comme nous sommes dans une période où les esclaves étaient une pratique légale en Empire romain, les Romains, après avoir remporté la guerre, après avoir succédé à l'Empire grec, ils ont remporté des guerres et les prisonniers des Romains, ils en ont fait des esclaves. Ils pouvaient les disposer, ils pouvaient les vendre à qui en avait besoin. Les esclaves étaient vendus et il y avait des marchés des esclaves où les gens pouvaient aller se procurer des esclaves selon leurs moyens. Ils pouvaient aller acheter des esclaves, soit pour un travail, soit pour un autre. Et à cette époque, la pratique avoir un esclave était une pratique autorisée, légale dans l'Empire romain. C'est dans ce contexte que notre frère Philémon avait aussi un esclave au nom d'Onésime. Onésime était esclave de Philémon. Et vous savez qu'en tant qu'esclave, l'esclave n'avait pas droit à une vie équitable. Il n'avait pas droit à un bon procès. L'esclave n'avait pas droit au mariage. L'esclave n'avait pas droit à un travail avec salaire. L'esclave était un homme qui n'avait... On peut disposer de lui comme on veut. Et à cette époque, lorsque on comptait le nombre de biens que quelqu'un pouvait posséder, l'on peut dire, le pasteur Jonas possède autant de chevaux, autant de véhicules, autant de maisons, mais aussi autant d'esclaves. Parce que les esclaves étaient considérés comme des biens, le bien de leur maître, et le maître peut disposer des esclaves tels qu'ils veulent, sans qu'ils ne soient inquiétés par quoi que ce soit. Parce que c'était une pratique qui était pratiquement légale. C'est dans ce contexte que notre frère Philémon avait aussi un esclave Onésime, qui n'était pas interdit, qui était une pratique légale. Et Onésime a vécu autant d'années dans la maison de Philémon. La Bible ne reproche à rien en termes de chrétienté, de spiritualité, de la vie de notre frère Philémon. Au contraire, Paul rend de lui des témoignages élogés en matière de foi. Il est resté longtemps, mais les esclaves de cette époque avaient deux faiblesses. La première faiblesse était la rébellion, parce qu'aucun homme veut vraiment être esclave, à moins qu'il soit un homme anormal. Même quand on est esclave et que c'est une pratique légale, émotionnellement, psychologiquement, aucun homme n'accepte d'être esclave, et ils avaient tendance à se libérer de leur maître et de fuir. Deuxièmement, ils avaient une pratique, une faiblesse récurrente qui était celle de voler. Les esclaves étaient un peu trop voleurs à l'époque. Ils avaient tendance à voler, peut-être parce que leurs droits n'étaient pas respectés, peut-être parce que c'est des gens qui travaillaient sans salaire, et la tendance était de mettre la main sur ce qui revenait à leur maître, de voler. Et notre frère Onésime est tombé dans ces deux faiblesses. Premièrement, il a volé le bien chez Philémon, et aussi, en volant, il s'est arrangé pour fuir. Et il fuit où? Il fuit à Rome. Pensez-vous vraiment que ce soit un hasard que Onésime quitte la maison de Philémon, il fuit à Rome, et pendant qu'il arrive à Rome, il va rencontrer l'apôtre Paul? Ce n'est pas un hasard, parce que l'apôtre Paul, lui aussi, était en prison. Onésime savait que l'apôtre Paul était le père spirituel de Philémon, d'Archip et d'Aphia. Et dans cette maison, on parlait de Paul à tout moment et de manière régulière. Ils parlaient de Paul comme leur père, ils parlaient de Paul comme leur pasteur, ils parlaient de Paul comme leur maître. Et lorsque eux parlaient de Paul, Onésime comme domestique dans la maison, ils entendaient ces gens parler de leur père spirituel, Paul. Je crois que Philémon, Archip et toute sa maison parlaient de Paul à des termes de respect, parlaient de Paul comme un bon père spirituel, parlaient de Paul comme, en termes de reconnaissance, comme leur pasteur qui leur a appris la bonne nouvelle. Et de ce qu'il a appris dans la bouche de Philémon et des autres concernant Paul, lorsqu'il fuit à Rome, il va alors chercher à rencontrer Paul. Vous savez, frères et sœurs, il nous arrive à parler de notre Église, il arrive à parler de nos pasteurs, il nous arrive à parler de nos responsables dans nos maisons, devant nos femmes, devant nos membres de famille, devant les bonnes, devant les domestiques que nous pouvons avoir. Il nous arrive à parler de ces choses. Mais comment parlons-nous de nos responsables dans nos maisons? Comment parlons-nous de notre Église dans nos maisons? Comment parlons-nous de nos pasteurs dans nos maisons? Est-ce qu'après avoir parlé de nos pasteurs, de nos frères, de nos sœurs dans nos maisons, peut-on-nous encore recommander à ceux qui travaillent autour de nous les dimanches pour dire « Je t'invite de venir prier avec nous à l'Église » après avoir dit ce que nous savons et ce que nous disons de notre Église? Quelquefois, nous sommes nous-mêmes un obstacle à l'Évangile par ce que nous disons. Nous sommes nous-mêmes un obstacle à l'avancement du royaume de Dieu par ce que nous disons. Et nous sommes peut-être étonnés de dire que nous sommes des chrétiens et produire des enfants charnels, produire des cousins, des neveux, des nièces charnels qui ne servent pas Dieu, parce que des fois nous ne contrôlons pas ce que nous disons de nos responsables et ce que nous disons de notre Église dans nos propres maisons. Quelqu'un peut dire amen? Alors, je crois que c'était différent avec un autre frère, Philémon, Archip et Aphia. Il fuit, il arrive à Rome, et là, il va rencontrer l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était logé dans une pièce à résidence surveillée, mais qui avait quand même l'opportunité de rencontrer des gens qui venaient le voir pour des entretiens. C'est dans ce contexte qu'il va parler du Seigneur à Onésime, et Onésime va donner sa vie à Jésus à Rome. J'aimerais épingler quelque chose, frère. Il est resté longtemps dans une maison où il y avait l'Église. Il est resté longtemps dans une maison où les pasteurs et la foi chrétienne de ces gens n'étaient pas réprochables. Mais Onésime n'a pas donné sa vie à Jésus dans la maison de Philémon. Quelqu'un peut rester longtemps à côté des pasteurs, et même être ami des pasteurs, et même quelquefois les pasteurs deviennent caution de la mauvaise vie de certaines personnes autour d'eux. Ils profitent de leur intimité ou de leur rapprochement avec les pasteurs pour se vendre autrement ailleurs. Les gens peuvent rester dans notre maison. Mes enfants peuvent naître dans ma maison, mais sans qu'ils ne deviennent véritablement chrétiens. On ne devient pas chrétien par héréditaire.
On ne devient pas chrétien héréditairement, on ne devient pas chrétien parce qu'on est fils d'un pasteur ou on est fille d'un pasteur ou on est la femme d'un pasteur. On devient enfant de Dieu par une relation personnelle avec Jésus-Christ. On devient enfant de Dieu en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas un problème de grandir dans un climat et dans un environnement spirituel. Et c'est comme ça que des fois, quand on pose des questions à ceux qui ont grandi dans nos maisons, aux enfants qui ont grandi dans les maisons chrétiennes des pasteurs, quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus ici? Quelques fois, les gens se rappellent, disent, bon, je me rappelle depuis l'enfance. Les parents nous amenaient à l'église. J'ai déjà donné ma vie depuis l'enfance, hein, depuis la naissance. Ça, c'est le risque de naître dans les maisons chrétiennes, où les gens ont véritablement une expérience avec Dieu eux-mêmes, mais une expérience des collectivités du fait d'être là ensemble. Onésime est resté longtemps dans la maison de Philémon, mais Onésime n'était pas chrétien. Et nous devons faire attention, frères, avec des appels aujourd'hui où tout le monde est devenu prédicateur, pasteur, beaucoup de milliers, les successions vont de père en fils, parce qu'on est enfant de pasteur, femme du pasteur, on doit nécessairement être pasteur, on doit nécessairement être dans cet environnement. Il y en a qui ont reçu l'appel authentique, gloire à Dieu, mais des choses que nous voyons de nos jours, quelquefois il faut les dénoncer, ça devient de la blague, frères et sœurs. On ne devient pas serviteur de Dieu, chrétien, appel de Dieu à un certain niveau, tout simplement parce que nous vivons dans un climat chrétien, tout simplement parce qu'on est fils du pasteur ou enfant du pasteur. J'aurais bien voulu avoir des enfants qui servent Dieu, mais Dieu doit les appeler personnellement et ça ne doit pas être une affaire des hommes. Onésime est parti, frères et sœurs, en prison, et là il rencontre Paul. Il rencontre Paul. Paul lui parle de l'évangile. Onésime croit. Onésime croit, il devient un serviteur à côté de Paul. Il tue à Paul. Paul trouve les services d'Onésime louables, merveilleux, et il veut bien garder Onésime avec lui. Mais Paul s'est dit, Onésime est un esclave. Bien aimé, il faut comprendre. Il a cru en Jésus, mais c'est un esclave. Il y a des lois qui réglementent l'esclavagisme à Rome. C'est vrai, Onésime s'est réconcilié avec Dieu. Onésime a donné sa vie à Dieu. Onésime est devenu enfant de Dieu. Ça, oui, mon fils, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es chrétien, tu es sauvé. Si la trompette sonne, nous allons avec toi au ciel. Mais nous vivons dans un état où la pratique de l'esclavagisme est légale. Je dois résoudre ces problèmes sur le plan spirituel, mais je dois résoudre aussi ces problèmes sur le plan légal, sur le plan pratique. Et comment Paul procède-t-il, frères et sœurs? D'abord, lorsque nous nous réconcilions avec Dieu, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous devenons chrétiens et que nous nous réconcilions avec Dieu, la réconciliation avec Dieu nous oblige de nous réconcilier avec nos semblables. Quelqu'un ne peut pas dire, je suis réconcilié avec Dieu, je m'en fous de mes voisins, je m'en fous des gens que j'ai blessés hier, je m'en fous des gens pour qui nous avons eu des différends, je m'en fous, j'ai arrangé ma relation avec Dieu, et c'est ma relation avec Dieu qui compte. Ça c'est de la blague, frères et sœurs, et c'est pas une vraie repentance. La vraie repentance, la vraie réconciliation avec Dieu nous pousse obligatoirement de nous réconcilier avec nos frères, nos sœurs, nos voisins, avec qui nous avons eu des différends, parce qu'il y a la relation verticale, mais il y a aussi la relation horizontale qu'il faut arranger. Et Paul voudrait arranger cette relation horizontale de Philémon. Et là, c'est là que Paul va rédiger cette lettre à Philémon. Paul dit à Philémon, Philémon, je dois te renvoyer chez ton maître, il dit à Onésime, je dois te renvoyer chez ton maître Philémon. D'abord, il se pose un problème pour Paul lui-même. Paul, le sachant que Philémon est un esclave fugitif qui a fui chez son maître et qui est venu se réfugier à Rome, il est interdit de garder par devers lui un esclave fugitif sous peine de poursuite judiciaire. Paul, en gardant Onésime qui était un esclave, qui savait qu'il a fui après avoir volé chez son maître, c'était illégal de garder quelqu'un comme ça. Tu peux être toi-même poursuivi par la loi parce que tu as gardé quelqu'un qui s'est rebellé, un esclave qui s'est rebellé contre son maître. Et Paul ne voulait pas obéir à la loi, désobéir à la loi romaine. Il voulait être aussi légal par rapport à la loi romaine. Donc, Onésime, tu as cru, j'ai besoin que tu restes avec moi, mais je ne peux pas te garder avec moi. Il est bon que tu rentres et te réconcilier avec ton maître. Ça, c'est le problème de Paul. Pour Onésime, c'est un autre problème. Onésime a deux problèmes. Premièrement, j'ai été esclave, j'ai expérimenté la liberté. Donc, en fuyant, je suis devenu libre. Sur le plan pratique, deuxièmement, j'étais esclave spirituel. En croyant en Jésus, je suis devenu chrétien, je suis devenu doublement libre. Libre sur le plan spirituel et libre sur le plan pratique. Paul, tu me demandes encore de rentrer chez mon maître Onésime. Est-ce que tu oublies que j'étais esclave? Est-ce que tu oublies que je vais revenir encore dans cette situation? Donc, même pour Onésime, il avait certainement un problème pour accepter de rentrer chez Philémon, aller réparer sa situation. En fait, faire devenir chrétien, j'aime ce que disait un jour le pasteur Alain Bissouta, c'est un engagement réfléchi. C'est au-delà de petites réformes extérieures, c'est au-delà de petites réformes d'apparence, mais c'est quelque chose de profond qui nous demande une réflexion profonde et des actes profonds. Donc, tu es devenu enfant de Dieu, mais va réparer avec ton maître. Donc, c'est quelque chose de grave qu'on demande à Onésime. Troisièmement, Philémon. Philémon, lorsque vous recevez un esclave qui a fui, qui est fugitif, un esclave qui a fui et qui a volé, la loi demandait à ce que cet esclave soit puni de mort. C'est-à-dire, normalement, lorsque Philémon, Onésime rentre dans la maison de Philémon, la punition, la sanction, c'est de mettre son esclave à mort, parce qu'ils avaient le droit d'en disposer. Ceci pour donner l'exemple à tous les autres esclaves de ne pas faire la même chose. Et donc, la sanction que Philémon devait réserver à Onésime, c'est le décapiter, c'est fini, il part. Donc, Paul a un problème, Onésime a un problème et Philémon a un problème. Maintenant, Paul va écrire pour résoudre cette question. Paul va écrire à Philémon. Il dit, je te renvoie, Onésime. Et comment il le présente? Comment il argumente? Je te renvoie, Onésime. Et il dit, premièrement, reçois Onésime comme un frère. Onésime a cru en Jésus. Onésime est devenu enfant de Dieu. Onésime n'était pas enfant de Dieu comme toi quand tu l'étais dans ta maison. Maintenant que Onésime est devenu enfant de Dieu, toi, mon fils Philémon, je te les renvoie. Je pouvais les garder avec moi, mais je ne peux pas les garder avec moi. D'abord, la loi me l'interdit, et je ne pouvais pas les garder avec moi pour que ton bienfait soit forcé. Je te les renvoie, mais je ne te les renvoie plus comme un esclave. Je te les renvoie comme un frère. Donc, Onésime, reçois-le comme un frère. Le christianisme, frères et sœurs, a combattu l'esclavagisme, mais a combattu l'esclavagisme avec la simplicité, mais la puissance de la parole. Le christianisme a délivré les gens de l'esclavagisme, et sur le plan spirituel, et sur le plan matériel, mais en faisant des choses proprement. Vous savez que les parlementaires comme Wilberforce dans le Parlement britannique, ce sont des gens qui ont, par des motions répétées, demandé l'abolition de l'esclavagisme des colonies britanniques en Afrique. Et ceci, c'était des vrais chrétiens. Ils ont travaillé, et c'est de manière pertinente, de manière régulière, jusqu'à ce que l'obtention de l'abolition a été obtenue dans le Parlement anglais. Donc, sans faire des casses, sans faire des marches, sans tuer à gauche et à droite, mais tout en restant permanent, conséquent et percutant dans la manière de faire, ils ont poussé les choses. Le christianisme a été à la base du développement de plusieurs choses. Vous savez que lorsque les missionnaires sont venus en Afrique, ils ne savaient pas qu'il y avait des problèmes de malaria, ils ne savaient pas qu'il y avait des problèmes de maladies tropicales. Mais c'est en venant en Afrique et en rencontrant ces problèmes que les gens sont allés étudier pour trouver des médicaments et trouver des solutions aux problèmes sanitaires que nous avons peut-être en Afrique tropicale. Ça, c'est le christianisme. Et le vrai christianisme rend des chrétiens responsables, les prennent de l'inutilité à l'utilité. Et je veux que tous soyons utiles en Jésus. Reçois-les comme un frère. Reçois-les comme un frère. Mais la théologie de notre savant Paul a des problèmes. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 7:21, il dit, « As-tu été appelé étant esclave ? Ne t'inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Donc l'apôtre Paul ne fait pas de problème à des gens qui ont un statut d'esclave dans l'église, parce que c'est un statut d'esclave. Tu es appelé comme esclave. Tu es frère en Christ, tu es huissier, tu es frère en Christ, tu es domestique, tu es frère en Christ, tu es sentinelle, tu es frère en Christ, tu es ministre, tu es frère en Christ. Ça, c'est pas ça le problème. Si tu peux aller plus loin, profite-en. Mais ne t'en fais pas à cause de ton statut. Il y a le statut spirituel qui est plus important. Et quand tu lui résolvais cette question à l'église, parce que les gens se posaient la question, mais nous sommes des frères, nous avons des esclaves, et nous sommes des esclaves, nous devenons des frères, nous venons tous dans l'église. Comment faut-il résoudre ces problèmes? Paul dit aux esclaves, vous avez été appelés à Dieu comme esclaves, ne cherche pas à devenir libre, reste esclave, ce n'est pas un problème. Mais si tu peux devenir libre, profites-en. Et ça, nous sommes en train de voir la situation d'Onésime qui pourrait en profiter pour devenir libre. Mais Paul, lorsqu'il parle ainsi à Timothée, à Philémon, je sais que Onésime te doit. Concrètement, Onésime a ta dette. Parce que Onésime a volé chez toi et il a fui. Il te doit. Comme il te doit, moi je te demande de le recevoir. Mais je sais qu'Onésime n'a pas l'argent qu'il a volé pour te rembourser. Et moi je te demande de le recevoir. Je te demande, il dit, si Onésime te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Ok. Onésime était riche. Philémon était riche. Philémon n'avait jamais pris un jour la dette de l'apôtre Paul. Pour que l'apôtre Paul dit de l'argent que tu retiens là, qui me concerne, prends cet argent-là dans mon compte que tu as, donne ça, paye la dette de Philémon. Non, ce n'est pas le cas. Tout ce que Paul a fait dans la vie de Philémon, il était son père spirituel, il a enseigné la parole de Dieu, par son ministère, sa famille a été sauvée, par son ministère, sa famille est devenue chrétienne, enfant de Dieu, espérant hériter le royaume de Dieu. C'est tout l'investissement que l'apôtre Paul avait donné à Onésime. Et partant de cet investissement-là, l'apôtre Paul dit à Onésime, « Toi, Onésime, tu me dois. Toi, Onésime, tu sais que tu me dois. Et comme tu me dois, la dette que la dette que Onésime devrait te payer, comme toi-même tu me dois, prends cette dette-là, mets-la sur mon compte. » Soyons corrects. Il y a beaucoup de gens dans cette église qui ne seraient rien, je dis bien rien, s'ils n'avaient pas rencontré le Seigneur, le Dieu de la borne, s'ils n'avaient pas été enseignés, prêchés par nos pères comme le pasteur Jacques Vernon, par nos pères comme le pasteur Bono, par les différents serviteurs de Dieu qui passent en ce lieu pour apporter la bonne nouvelle. Nous étions des vauriens, nous étions des gens inutiles, autrefois sans forme, sans sens. Et tous les sens que moi j'ai, je le dois au Seigneur et je le dois au mon père, à mes pères. Sans mes pères, sans la parole de Dieu, sans l'enseignement que j'ai reçu, je me pose la question si je parlerais français, si je n'avais pas rencontré Jésus dans mon enfance. Je me pose la question si je serai du haut de cette chair, proclamant la bonne nouvelle devant des hommes et des femmes de toute catégorie, si le Seigneur n'avait pas touché mes pères pour m'apporter la bonne nouvelle. Je me pose la question, suivez-moi bien, si votre mariage jusqu'à ce jour tient encore à cause des enseignements, des départements de couple, des suivis des pasteurs, des enseignements que vous recevez ici, à cause de tout ça, tu es un homme debout, vivant et marchant. Il y a des frères et des sœurs qui ont trouvé leur femme dans cette église, et ni c'était cette église, ils n'allaient pas trouver de femme telle que vous l'avez déjà. Il y a des gens qui ont été rencontrés par des frères parce qu'on les a donné l'opportunité de passer ici et les gens les ont découverts. Mes frères, vous devez beaucoup à la borne. Vous avez des dettes de la borne. Vous avez des dettes des hommes de Dieu. Oui, oui, acclamez bien le Seigneur. Acclamez, acclamez, acclamez. Si le pasteur vous dit, vous les devez, et il utilise cette expression à l'impératif, tu me dois. Je ne parle pas ici du dadisme mal interprété, où les pasteurs, où les dadis deviennent des manipulateurs de conscience des gens pour les exploiter, loin de là. Je parle des hommes de Dieu sérieux, clairs, honnêtes, que vous connaissez, qui vous prêchent la bonne nouvelle. S'ils vous demandent quelque chose, vous devez le faire. Dis au voisin, tu dois le faire. Winner, si je te demande quelque chose, tu dois le faire. Et est-ce qu'on est ensemble? Et vous savez que nous qui parlons français là, entends quelqu'un dire, mais avec ton couple, ce qui se passe là, dit le pasteur m'a dit, mais moi je ne suis pas convaincu. Tu n'es pas convaincu? Ce que le pasteur te dit, c'est une imbécilité ou la parole de Dieu? Si ce que je te dis, c'est la parole de Dieu, tu dois le faire. Dis au voisin, tu dois le faire. Il n'y a pas d'option. J'ai dit, si c'est la parole de Dieu, tu n'as pas d'autre option que de le faire. Et l'apôtre Paul dit à Philémon, tu as ma dette. Frère, toi tel que tu as la dette de beaucoup de gens. Tu as la dette de beaucoup de gens. Même sur le plan politique, beaucoup de gens ont des dettes de beaucoup de gens. Vous n'êtes pas arrivé là où vous êtes sans recommandation, même de votre parti politique. Mais c'est plein d'ingrats. Plein d'ingrats. Plein d'ingrats. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous savez qu'il y a des frères que les sœurs ont accepté en mariage parce que seulement on les a vus modérés ici? Il y a des frères qui ont dit du bon boulot parce qu'il a rencontré un frère ici. Et le frère l'a recommandé, il a un bon boulot. Et tu te réunis quelque part, tu critiques la borne, tu critiques les pasteurs. Frère, nous ne maudissons pas les gens, mais je t'apprends que c'est une malédiction. Et que cela soit entendu au nom de Jésus. Parce que toi-même, tu me dois. Quand tu regardes ta vie, tu dis, oh. Mais dans ma vie, ni t'étais mes parents, ni t'étais cette personne à cette époque, ni t'étais cet homme à cette époque, mais moi j'aurais été sans forme, j'aurais été vide. Mais cet homme-là, comme tu n'as pas de choses à lui donner matériellement, respecte-le, prie pour lui, garde de bonnes relations avec lui, sois avec lui en bon terme. Oh, est-ce que ça coûte quoi? Ça coûte quoi, frères et sœurs? Au lieu de se réunir dans la compagnie de gens qui les critiquent, qui les combattent, on t'a fabriqué hier. Aujourd'hui, tu combats les gens qui t'ont fabriqué. Et demain, toi, tu seras combattu par des gens que tu fabriques. Ainsi va la vie. Reparlez! L'apôtre Paul dit que j'obtienne de toi cet avantage. Tranquillise mon cœur. Même quand tu lui démontres que tu m'es droit, l'apôtre Paul n'en fait pas une histoire forcée. Il dit, écoute, toi tu me dois, mais je te demande, fais-moi grâce d'obtenir de ta part cet avantage. Tranquillise mon cœur. Bien-aimés, est-ce que vous ne pouvez pas tranquilliser le cœur du pasteur Bondo qui se poumonne pour la construction de ces temples avec des gens comme vous, avec des gens comme vous, avec des gens comme vous. Vous ne pouvez pas tranquilliser le cœur des serviteurs qui travaillent en ce lieu en soutenant ces projets et en donnant de vos moyens. On ne vous demande pas de nous remplir nos poches pour nos business personnels, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Je le dis comme Paul pourrait le dire à Philémon, et je le dis aujourd'hui comme le pasteur Bono pouvait le dire à la bonne. Tranquillise mon cœur, que j'obtienne de vous cet avantage, mes frères et sœurs. Soutenez ces projets du temple et le Seigneur vous bénira. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? L'apôtre Paul, en parlant à Philémon, il atterrit pour y dire, il est utile pour toi et il est utile pour moi. Il était des... Vous savez que le nom de Onésime signifie utile. C'est ça la signification du nom d'Onésime. Mais cet homme qui portait le nom de utile, est-ce qu'il était utile chez Philémon? Un margoulin. Voilà qu'il apportait un très bon nom. Mais en réalité, il n'était pas utile. C'est pourquoi cette histoire de théologie des noms. Oh mon frère, Dieu m'a révélé, tu as des problèmes dans ta vie parce que tu t'appelles Mampassi, hein, Matesso. Comme tu t'appelles Matesso, c'est comme ça que les douleurs, les problèmes te suivent. Le Seigneur me montre que tu dois changer le nom en devenant béni et comme ça tu seras béni. Cette théologie est fausse, frère. Lorsque nous sommes en Christ, mon nom peut être malédiction, mais moi je ne suis pas maudit. Je suis béni. Ça ne suffit pas de changer de nom pour que vous deveniez béni. Ça suffit de changer de camp. Et Onésime a changé de camp. Il était païen, il est devenu un enfant de Dieu. Voilà qu'il avait un nom, un très bon nom, hein, utile, mais sur le plan pratique, inutile. Mais c'est quand tu l'as cru en Jésus que son nom a eu son sens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me dirait, mais non, pasteur, Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham. Dieu a changé le nom de Jacob à Israël. Lorsque ce Dieu qui change le nom de quelqu'un, le nom porte des portées missiologiques. C'est-à-dire que le nom est une mission. Le nom devient une destination. Parce que ce Dieu qui te le donne, et il oriente ta destination à autre chose. C'est ça le sens. Lorsque Dieu appela le peuple et il changea leur nom. Il n'est pas question de dire, change ton nom. Même quand ta vie est sale, change ton nom. Dieu m'a montré, change ton nom. C'est faux. La croix est plus puissante que n'importe quelle forme de chose que l'on peut avoir. Il est utile pour toi et pour moi. Donc, frères et sœurs, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il devient utile pour lui-même. Il devient utile pour les autres. Il devient utile pour sa nation, il devient utile pour son église, il devient utile pour sa société. Toi, là, je te pose la question, tu es utile pour nous ici en quoi? Toi, pose la question au voisin. Donc, quand tu es là, on ne sent rien. Quand tu n'es pas là, on ne sent rien. Et tu veux vivre comme ça? Tu veux vivre comme ça? Sois un papa utile pour ta famille, ta femme et tes enfants. Sois un enfant utile pour tes parents. Sois un frère utile pour tes responsables, pour ton église. Sois utile pour notre maison. Sois utile, frères et sœurs. Sois utile pour nous. Et quand le jour où tu n'es pas là, que nous puissions te pleurer comme Dorcas à Jopé. Quelqu'un veut dire amen? Tant pis avec les horizons funèbres et mensongères. Oh, avec cet homme, la disparition de cet homme, le pays a beaucoup manqué. Le pays a beaucoup manqué en quoi? Un corrompu, un voleur. Et vous pensez que Dieu est tenu avec nos horizons funèbres? Il y a des gens, quand tu le mets, comme dans la morale africaine, on ne parle pas du mal aux morts. Nous les respectons, mais dans le cœur, nous disons « Kende malamu, kende, kende ». Bien-aimé, il y a certains Koulouna dans le quartier, quand vous l'apprenez qu'il est mort. Nous bénissons Dieu, non? Et nous bénissons Dieu. Cet homme qui nous faisait la terreur, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Hein? Un papa qui ne sert à rien, une maman qui ne sert à rien, des enfants qui ne servent à rien, des femmes qui ne servent à rien du tout. Surtout avec cette génération Facebook, WhatsApp. Les gens veulent se marier, mais ils ne connaissent pas préparer. Beaucoup de nos sœurs ne savent pas préparer. Quelqu'un te dit, pasteur, je vais me marier, Tu veux qu'on te donne un frère avec une sœur qui ne connaît... Donc, il vous prépare un pondou, vous ne savez pas, c'est les légumes, hein? C'est les... Et j'ai l'impression que nos parents aujourd'hui ne font plus rien. Hein? WhatsApp sur WhatsApp, Facebook sur Facebook. Donnez-lui le fumbois, c'est un problème. Mais les requêtes sur le mariage, on est fatigué. Frère, Dieu est juste. Sœur, Dieu est juste. Il ne te donnera pas un frère quand toi tu ne sais même pas préparer. Peut-être que ça c'est pas le message, mais je vous dis que c'est un message biblique. Mais regarde, frères et sœurs, Onésime, il croit en Jésus. Paul le dit à Philémon, reçois-le, il est maintenant utile, et pour toi, et pour moi. Est-ce que vous connaissez la suite de la vie d'Onésime? Quand vous lisez la Bible ne le dit pas. Même la réaction de Philémon, la Bible ne le montre pas. C'est juste une histoire qui a été racontée. Mais quand vous lisez la lettre du Saint Agnès d'Antioche, parce qu'il écrivait aux églises d'Éphésiens, il fait allusion à Onésime, parce qu'Onésime est devenu l'évêque de l'église d'Éphèse. À la mort de Timothée, c'est Onésime qui est allé remplacer Timothée comme évêque de l'église d'Éphèse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, ça ne peut se faire qu'en Christ, où un esclave peut devenir évêque. Oh, et vous savez que l'une des raisons pour lesquelles on a persécuté l'Église dans l'Empire romain, il y a plusieurs autres raisons, mais l'une des raisons, les Romains traitaient l'Église des chrétiens des anarchistes. Les anarchistes, pourquoi? Les gens qui sont esclaves dans nos maisons, quand nous venons à l'Église, ils sont des évêques à l'Église. Mais vous, chrétiens, vous êtes des anarchistes? Comment nous les dirigeons dans nos maisons, et quand nous arrivons à l'Église, et nous dirigent? Alors, ce sont des anarchistes, il faut les combattre. Frère, c'est un problème de la grâce. Si Dieu me met devant vous maintenant là, c'est seulement un problème de la grâce. J'ai dit un problème de la grâce. Et supporte la dictature de Dieu. C'est la grâce. Je ne mérite rien de parler devant un public comme le vôtre. Vraiment pas mérite. Oh, et qui Dieu t'a tiré d'où pour parler devant les érudits comme l'église de la borne. Un problème de la grâce. Un problème de la grâce. Tout simplement, la grâce de Dieu, frère. La grâce de Dieu. Et cette grâce, je le prends au sérieux. Je le prends vraiment au sérieux. Moi, là, me tenir devant vous, je la prends au sérieux. Je la prends au sérieux, frère. Je la prends au sérieux et je me rends compte de ma petitesse. Donc, Onésime est devenu évêque de l'église d'Éphèse, dirigeant les hommes libres, mais lui un petit esclave. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Regardez l'histoire. Est récente et les histoires de tous les temps des hommes. Des gens qui nous dirigent, c'est des gens qui viennent de quelque part que vous connaissez. Hein? Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas un problème d'avoir des doctorats en philosophie d'Osborne, de Sorbonne, je vous ai dit. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est un problème de la qualification de Dieu. Et quand Dieu qualifie quelqu'un, même si c'est contre toi, accepte-le. C'est un problème de qualification de Dieu. Onésime est devenu utile. Mais qu'est-ce que la vie d'Onésime nous enseigne en quelques lignes? Premièrement, la vie d'Onésime nous enseigne que l'inutile peut devenir utile. Et j'ai dit que l'inutile peut devenir utile. Frère, je ne sais pas, Peut-être à cause de ton chômage, tu n'as plus d'utilité en famille. La femme t'insulte, les enfants t'insultent, tout simplement parce que tu es chômeur. Mais je te dis que tu peux devenir utile. Dieu n'a pas encore mis fin avec toi. Dieu n'a pas encore mis fin avec toi. Les gens ne te considèrent pas. J'aime la chanson que ma sœur a chantée avant que je commence. C'est comme si c'était une chanson qui introduisait mon message. Que Dieu vous bénisse pour cette révélation. Les gens disent de moi, je suis inutile, je ne vaux rien, je n'ai pas d'études, je n'ai pas de diplôme. D'ailleurs, dans notre famille, n'est pas connu. D'ailleurs, ça c'est ce que les gens disent de toi. Inutile, mais ce que je sais, je suis enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenu chrétien, je suis fils de Dieu. Et je suis capable de chasser les démons. Amen. Je dis, je suis capable de chasser les... Donnez un démoniaque à un ministre s'il saura. Nous avons quelque chose, frère, que les autres n'ont pas. Amen. Amenez-moi les démoniaques. Je vais chasser les démons. J'ai une grande autorité en Christ. Amen. C'est pourquoi, frère, ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas, ça va changer. Dis aux voisins, ça va changer. Je serai utile. Je suis d'ailleurs utile avec Christ. Dites à ta femme de te donner quelques jours, ça va changer. Un enfant inutile pour les parents. On a tout fait, pasteur. Cet enfant est inutile. Qu'est-ce qui te dit ça? Tu n'as pas le droit de conclure, même quand tu es parent. Cet enfant avec Christ peut redevenir utile. Il peut partir de l'esclavage et devenir évêque de l'église d'Éphèse. Ça va changer! C'est pourquoi, frère, quand tu es en Christ, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, s'il faut se glorifier, je me glorifie en Christ. Je me glorifie en Christ. Tu sens un peu un orgueilleux, mais pas de l'orgueil, c'est de la fierté d'être enfant de Dieu. Tu me minimises, gloire à Dieu, mais je sais que j'ai une importance devant le Seigneur. Dites-moi ce que vous pensez. Ça va, je ne vais pas passer mon temps à vous répondre, mais je sais que je ne suis pas ce que vous pensez. Parce que je suis en Christ, j'étais parti des inutiles. Ah! L'apôtre Paul dit, nous aussi autrefois, nous étions privés des droits du citoyen en Israël. Nous n'avions rien. On était inutiles. On ne connaissait rien. Mais maintenant, nous sommes devenus concitoyens d'un saint, enfants de la maison de Dieu, héritiers de la promesse, co-héritiers avec Christ. C'est tout ce que nous sommes. Frère, avec Dieu, de l'inutile peut devenir utile. Deuxième leçon que Onésime nous enseigne. Dieu peut se servir de tout le monde. Dieu peut se servir des esclaves, des hommes. Dieu peut se servir des esclaves pour les faire asseoir à côté des grands, n'est-ce pas? Pour les faire asseoir à côté des grands. La Bible dit, dans 1 Samuel 2:8, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands et leur donner en partage un trône de gloire. Car l'Éternel, à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, du fumier, Dieu retire l'indigent, le pauvre, le malheureux, de n'importe où, de n'importe rien, de la poussière. Nous venons de familles sans nom. Qui connaît le nom de Mabalo Iki? Personne ne connaît. C'est pas ça qui importe à Dieu. Ce qui importe à Dieu, c'est ma destination. Ce qui importe à Dieu, c'est là où il veut m'amener. Oui, frère. Des gens sans forme, informe et vide à peu près. Vous savez, quand vous regardez, des fois je regarde mes photos de LinkedIn parce que j'étais ici en droit. Je regarde mes photos, je dis, ah, j'ai même des fois honte de regarder ces photos. Informe et vide. Vous regardez votre couleur, est-ce que c'est une jaune verdâtre? Ou une rouge noirâtre? Dieu seul, frère. Dieu seul. C'est pourquoi. Quand Dieu t'amène quelque part, sois reconnaissant de là où il t'a tiré. Ne deviens pas orgueilleux, frère. Dieu peut se servir de tout le monde. Dieu ne vous posera pas la question que je voudrais faire ceci. Mon frère, le nom, j'ai oublié. Jacques, quel conseil tu me donnes? Que je fasse ceci avec le pasteur Roger? Ou qu'est-ce que tu penses? Dieu ne posera pas la question au pasteur, au frère Jacques, pour utiliser Winner. Non! Non! Il fait ce qu'il veut.
Et Dieu peut utiliser tout le monde. Ton malheur à toi, quand on veut dire que Dieu veut se servir de quelqu'un pour le Congo, toi tu regardes parmi les politiciens, tu dis, ah ça doit être certainement tel. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Je parle de toi. Dis-toi que moi aussi, Dieu peut se servir de moi. Il n'y a pas que l'un, il n'y a pas que l'autre. Moi aussi, Dieu peut se servir de moi. Et c'est pourquoi, frère, Dieu, vous pouvez regarder dans la vie. Vous êtes assis à gauche, un grand, à droite, un grand. Et moi, assis parmi ces gens, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Du fumier, il tue les pauvres. Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais il y a des gens parmi nous. Il y a des gens parmi nous. Quand vous regardez à gauche, il n'y a rien. Vous regardez à droite, il n'y a rien. Il n'y a pas un grand. Écoutez, si c'est ça votre vie là, dites-vous que Dieu vous considère des gens comme un grand et il n'a pas besoin de mettre un autre grand à côté de vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es grand, Dieu ne te mettra plus à côté d'un autre grand. Tu es des gens grands en Christ et il sait ce qu'il fait. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne commet pas d'erreur. Qu'est-ce que nous retenons de la vie d'Onésime? Le point de départ ne compte pas pour Dieu, mais c'est la mission qu'il vous confie qui compte. Quelqu'un m'entend? Le point de départ ne compte pas. Oh, nous venons dans une famille où les gens n'ont pas étudié. Nous venons. Il y en a même qui disent leur tribu là. Quand ils parlent de leur tribu là, ils les disent avec des termes. Bon, moi je viens. Bon, de notre tribu c'est tel. Hein. C'est comme si dans cette tribu là, Dieu ne peut rien faire. Frère, faites attention. C'est comme ça qu'un chrétien ne peut pas être tribaliste. Le sang de Jésus a été versé pour toutes les tribus. Et Dieu est capable d'utiliser n'importe quelle tribu, n'importe quelle minorité, pour les faire asseoir et leur donner ce dont ils ont besoin. Bien-aimés en Christ, en termes de conclusion, j'aimerais dire ceci. Nous sommes utiles, pas à cause de nos grands diplômes, pas à cause de nos relations et notre rang social. Selon Dieu, nous sommes utiles lorsque nous sommes enfants de Dieu et nous devenons chrétiens. Est-ce que toi, tu es enfant de Dieu ou tu viens à la borne? Toi qui me suis aux médias, je ne sais pas, vous êtes dans quel hôtel, traversant quel pays pour un autre pays. Est-ce que tu es enfant de Dieu ou c'est seulement un religieux? Tu as grandi dans un climat chrétien. Il y a des gens, s'ils ne viennent pas le dimanche à l'église, ils vont faire quoi? Donc allons seulement. Et vous êtes ici comme allons seulement. Non frère, c'est une question de vie. Devenir enfant de Dieu, donner ta vie à Jésus. Et ce matin, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, retiens ceci. Dans 2 Corinthiens 3:18, l'apôtre Paul dit ceci. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous qui sommes déjà devenus utiles en Christ, nous deviendrons davantage utiles en contemplant la gloire de Dieu, l'image de Dieu comme au travers un miroir. Vous savez que lorsque Moïse a fait 40 jours dans le désert et qu'il est revenu, son visage était rayonnant de gloire au point que les Israélites étaient dans l'incapacité de regarder et de voir son visage. Et Moïse, au fur et à mesure qu'il est resté parmi les peuples, ce rayon de gloire est parti, il est redevenu normal. Et ça, c'est momentanément. Et donc, comme Moïse était rayonnant de gloire et que le peuple ne pouvait pas le regarder, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est voilé. Il s'est couvert de voile pour que le rayonnement de sa gloire ne fasse pas peur au peuple. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus voilés. Le visage est dévoilé. C'est-à-dire, lorsque nous contemplons Jésus, lorsque nous faisons des efforts à devenir semblables à Christ, à ressembler Christ, à ressembler son image, nous sommes transformés dans notre vie de tous les jours de gloire en gloire. Et le visage n'est pas voilé, au point que ceux qui nous regardent du dehors, même quand vous êtes pauvres, ils voient en vous la gloire de Dieu qui éclate et capable de faire des choses. C'est pourquoi, suivez-moi en conclusion, je suis le prédicateur prêcher la sanctification. La sanctification qui s'est définie comme la séparation avec le péché, en vue de la consécration à Dieu, ça c'est théologique. On n'y arrivera pas. Ce n'est pas ça la sanctification biblique. La sanctification biblique, c'est celle ici. C'est-à-dire, nous nous consacrons à Dieu en vue de la séparation des péchés. Lorsque quelqu'un se consacre à Dieu, fait un effort de méditer, de suivre la parole, de rester dans le climat chrétien, de vouloir ressembler à Christ, il se rendra compte que Asala Ekobokala. Il se rendra compte qu'il y a longtemps qu'il a menti. Donc l'effort ne consiste pas à fuir le péché, l'effort consiste à se consacrer à Christ. Et quand vous vous consacrez à Christ, vous avez déjà fui le péché. C'est ça le processus de la ressemblance à son image. Et lorsque nous faisons cet effort de ressembler Christ, nous sommes transformés de gloire en gloire. Que le Seigneur vous bénisse, que ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Le temps est parti, mais toi qui veux être utile en Jésus, qui veux donner ta vie en Jésus, est-ce que tu peux t'élever s'il te plaît? Ce n'est pas une question de regarder le voisin. Tu veux être utile en Jésus, en donnant ta vie à Jésus aujourd'hui. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de relations, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de foi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Ah, you are
Yahweh.
Yahweh
Alpha and Omega.
Lève-toi. Tu vas être utile selon Dieu.
You are Yahweh.
Yahweh. Seigneur, nous te bénissons pour tous ceux qui sont debout. Merci de les recevoir dans ta maison et de faire des hommes et des femmes utiles. Merci pour ceux qui s'élèvent et qui veulent désormais t'appartenir et donner leur vie à toi, Seigneur. Merci de les bénir. Merci d'être avec eux. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.